Bonsoir. Après plus d'un an et demi de débats citoyens et de concertations, Emmanuel Macron a présenté le 11 mars dernier, dans un entretien exclusif à La Croix et Libération, son projet de modèle français de fin de vie, annoncé un an auparavant, quand il était encore candidat à un second mandat à la présidence de la République. Le chef de l'État assume avoir pris le temps de l'écoute et de la réflexion sur un sujet complexe et intimidant, et je le cite, notamment pour entendre les oppositions philosophiques ou religieuses, je cite à nouveau. À ses yeux, il s'agit d'une, je cite, « loi de fraternité », une loi qui concilie l'autonomie de l'individu et la solidarité de la nation. J'en rappelle les deux points essentiels. Tout d'abord, l'ouverture d'un accès à l'aide à mourir sous condition, et la promesse d'une stratégie décennale pour développer les soins palliatifs. Donc la principale annonce, c'est le projet de loi ouvre la voie à une possible aide à mourir pour les personnes en fin de vie qui en feront la demande. Pour cela, les patients devront attester qu'ils remplissent bien les conditions requises, être majeurs, capables de discernement, être atteints d'une maladie incurable provoquant des souffrances que l'on ne peut soulager et entraînant un pronostic vital à court ou moyen terme. Si le malade est suffisamment autonome, ce sera à lui d'effectuer le geste final en présence d'un médecin ou d'un infirmier. On est donc dans le cadre d'un suicide médicalement assisté. Mais le projet de loi prévoit également le cas d'un patient qui, atteint d'une maladie invalidante, ne pourrait pas s'administrer la substance létale. Il pourra alors faire appel à un tiers pour l'y aider, qui peut être un proche ou un personnel soignant, médecin ou infirmier, qui accepte de l'accompagner. Un cas de figure qui correspond à une euthanasie. Le texte prévoit également de garantir une clause de conscience aux soignants qui ne souhaitent pas concourir à l'acte. Côté solidarité, le projet de loi comprend également un volet sur le développement des soins palliatifs qui permettent de soulager les douleurs et d'accompagner les patients et leurs familles jusqu'au bout. Avant même que la loi soit promulguée, le chef de l'État s'est engagé à remettre à niveau une offre de soins très insuffisante à travers une stratégie décennale. Il s'agit notamment de doter les 21 départements qui en sont encore dépourvus d'une unité de soins palliatifs qui permet de prendre en charge les patients les plus complexes. Le plan prévoit également de renforcer les équipes mobiles de soins palliatifs. Un effort particulier devrait concerner les soins palliatifs pédiatriques et le développement des réseaux qui assurent l'accompagnement à domicile. Pour cela, il faudra des moyens. Actuellement, la France consacre environ 1,6 milliard d'euros de dépenses par an aux soins palliatifs. Sur les 10 ans à venir, l'État s'engage à investir 1 milliard d'euros supplémentaires. Concrètement, une commission spéciale va être constituée dans les 8 jours, le 10 avril, à l'Assemblée nationale pour examiner le projet de loi. Constitué de 70 députés issus de toutes les commissions permanentes, elle étudiera le fond du texte à partir du 6 mai, avant une discussion en séance à partir du 27 mai. Selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, réalisé après les arbitrages d'Emmanuel Macron, 82% des Français approuvent le projet de loi, mais une majorité de médecins réunis en collectif fédérant une douzaine d'organisations, s'est déclarée hostile à une telle évolution. Pour en parler, nous avons la chance d'avoir deux spécialistes et deux étudiants aux facultés Loyola Paris. Régis Aubry, vous êtes chef du pôle autonomie handicap, qui regroupe les services neurologie, gériatrie, douleurs, soins palliatifs au CHRU de Besançon. Et vous êtes aussi membre du comité consultatif national d'éthique et co-initiateur de la stratégie décennale qui a inspiré le chapitre du projet de loi consacré aux soins palliatifs. Bruno Sainteau, vous êtes jésuite, maître assistant en philosophie, responsable du domaine d'enseignement éthique biomédical aux facultés Loyola Paris, il va bien falloir s'y faire, donc c'est plus Centre Sèvres, et expert auprès de la Conférence des évêques de France sur les questions de bioéthique. Mathieu Florence, vous êtes jésuite, scolastique jésuite, et vous êtes en cinquième année de cycle intégré de philosophie, de philosophie et théologie, aux facultés Loyola Paris, et Étienne de Blois, vous êtes pas jésuite, mais vous êtes en quatrième année. Régis Aubry, si vous voulez commencer pour voir la façon dont vous envisagez le projet de loi présenté par le gouvernement.
Oui, écoutez, merci beaucoup pour cette invitation. Ce que je vous propose, vous m'avez dit un quart d'heure, c'est ça?
Oui. Oui, pas plus.
Ce que je vous propose, c'est de vous faire état quand même très rapidement du cheminement, puisque je suis co-rapporteur, j'ai été co-rapporteur de l'avis 139 du Comité national d'éthique, du cheminement qu'a amené le Comité national d'éthique à s'auto-saisir, à rendre cet avis. Je vais passer assez vite, même si c'est très important, sur la Convention citoyenne qui a été un temps, à mon sens, assez inédit, assez important dans cette démarche, et faire état de la vision qu'est la mienne du projet de loi et surtout des mesures qui devraient être annoncées là, dans les jours qui viennent en matière de stratégie décennale. Pour ce qui est du Comité national d'éthique, je vous le disais, c'est une auto-saisine, c'est-à-dire que, pour le dire autrement, je pense que le Comité national d'éthique a souhaité ne pas être saisi, il s'est donc auto-saisi. Il a souhaité surtout ne pas être saisi dans l'urgence, puisqu'il savait qu'il, ou il pressentait qu'il serait saisi compte tenu de la pression parlementaire assez forte qui existait. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le CCNE s'est auto-saisi. Nous nous sommes auto-saisis parce que depuis plusieurs avis, nous voyons bien, et d'ailleurs ça fait l'objet d'une réflexion en cours, dans un autre avis en cours d'élaboration au sein du CCNE, nous voyons bien des évolutions dans le domaine de la santé et de la médecine en particulier qui sont de nature à penser peut-être un changement de paradigme autour des questions de fin de vie. Le premier changement, c'est peut-être une évolution corrélative au progrès de la médecine. Alors je vous propose qu'on discute pas la notion de progrès. Je ne fais pas partie des révisionnistes et je ne suis pas hostile au progrès, mais c'est plutôt l'étude d'une zone d'ombre de ce progrès. Ce qui accompagne le progrès, c'est finalement une augmentation des situations de vulnérabilité qui sont liées à la santé. Je pourrais développer dans la discussion si vous le voulez, mais ça engendre finalement de nouvelles formes, de nouvelles figures de la fin de l'existence qui sont marquées par une augmentation du temps avec la question de sa propre finitude, et parfois une augmentation du temps avec la question de la souffrance humaine qui nous a amené à reconsidérer en quelque sorte les questions relatives à la fin de vie, avec en particulier, si je vais assez vite dans cette démarche, une conclusion du CCNE qui était dans deux sens. Si le législateur envisage une évolution du droit, je reprends les termes de l'avis de 2022, si le législateur envisage une évolution du droit, il semble au CCNE que cette évolution ne peut pas être pensée sans un véritable engagement qui n'est pas simplement un discours sur l'engagement, mais un véritable engagement dans le développement de l'accompagnement et des soins palliatifs. J'y viendrai. Et si le législateur pense à une évolution du droit, il nous a semblé, en y réfléchissant, que la question de l'assistance au suicide posait peut-être moins de questions de nature éthique que celle de l'euthanasie. J'y reviendrai également, si vous le souhaitez, bien entendu. Le CCNE envisageait la nécessité d'un débat public. Alors, la suite a été, entre autres, la question de la Convention citoyenne. Et puis la deuxième raison qui inquiète le CCNE autour de ces évolutions, c'est la crise inédite que traverse le système de santé dans notre pays, mais pas simplement dans notre pays. Il y a une crise de croissance, en quelque sorte, des systèmes de santé dans de nombreux pays. Mais il y a là une crise qui pourrait, si nous n'y faisons pas attention, être préjudiciable pour précisément les personnes que le système de santé contribue parfois à engendrer, les personnes en situation de vulnérabilité. Il y a donc lieu de penser concomitamment une réforme assez profonde du système de santé. Je me permets de vous renvoyer à l'avis suivant, que j'ai aussi contribué à coordonner, du CCNE, qui est l'avis 140 autour de tout cela. Et penser une évolution éventuelle du droit, mais surtout des politiques d'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, et en l'occurrence des personnes en situation de fin de vie. Il y a donc eu dans les suites de cet avis la mise en œuvre de la Convention citoyenne, on pourra en reparler, j'ai trouvé que c'était un événement assez intéressant au plan de l'exercice de la démocratie. Moi, j'avoue avoir été impressionné, même si je ne partage pas toutes les conclusions personnes. J'avais été impressionné de leur capacité d'écoute, de l'humilité qui a été au cœur des réflexions auxquelles j'ai pu participer, de l'investissement dans la dimension complexe du sujet et de l'acceptation de perspectives qui ne sont pas monomorphes en quelque sorte et surtout pas binaires. Il y a eu aussi beaucoup de débats organisés par les espaces de réflexion éthique en France, par toutes les instances du débat public. Voilà. Et puis il y a eu donc dans la suite de cette convention citoyenne et dans la perspective annoncée d'un projet de loi dont on devinait tout de même les contours assez rapidement, la mise en œuvre d'une instance qu'on pourrait qualifier de préfiguration de la stratégie décennale, instance pilotée par le professeur Franck Chauvin, professeur de santé publique, et que j'ai aidé dans cette démarche, qui ouvre vers des perspectives assez importantes que je pourrais peut-être détailler si les questions me sont posées, mais qui devraient engendrer un budget bien supérieur à ce que vous disiez, hein, qui est puisqu'il s'agit de cumuler des budgets, ce qui amènerait à une augmentation de l'ordre de 5 à 5,5 milliards d'euros pour ce qu'on a appelé des soins d'accompagnement, et plus large que les soins palliatifs, mais j'y viendrai tout à l'heure. Ouais, je m'arrête là, j'ai peut-être été du coup trop rapide, mais...
Très bien. Donc, Boudon Sainteau, Régis Aubry évoque un changement de paradigme sur la fin de vie.
Très bien. Alors, en fait, pour moi, pour la présentation, j'ai pensé faire une présentation en trois temps. D'abord, quel est le contexte de la question éthique? Deuxièmement, comment procéder? C'est une question de méthode. Et puis, troisièmement, ce qui me pose, enfin, qui pose un certain nombre de personnes problèmes dans le projet de soins, de loi actuelle tel qu'il est déposé au Conseil d'État. Voilà. Alors, je commencerai par le contexte, parce que le contexte influe beaucoup sur les formes de réponse. C'est-à-dire que la société a évolué, le contexte a évolué. J'ai noté quelques points, alors je vais être assez bref, vous êtes le gardien d'horaire, donc vous me direz si je m'étends trop. Le premier point, c'est une évolution de la sécularisation. Ça se traduit dans les débats actuels parce qu'en fait, les instances en présence traditionnellement, ça se traduit parce que les grands consensus anthropologiques qui reposaient notamment sur les institutions religieuses notamment, qui diffusaient un certain nombre de grandes conceptions anthropologiques et éthiques, elles sont elles-mêmes atteintes par le phénomène de la sécularisation. Et on pourrait dire que les religions ne sont plus en pointe sur ces questions-là. On le voit d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que les religions, bon, faut bien les consulter un petit peu, n'est-ce pas? Alors on leur pose quelques questions, mais c'est pas vrai, c'est plus vraiment des partenaires, et on sent que là, une évolution extrêmement importante. Ce qui monte en fait en puissance, ce sont les soignants eux-mêmes qui s'emparent de la question. Alors ça, pour moi, c'est un grand indice, parce qu'on pourrait dire les instances éthiques, les grands courants de pensée philosophiques et religieux, qui en quelque sorte avaient une sorte de monopole du débat, et qui se prononçaient, elles sont plus en retrait. Et ce qui monte, en fait, c'est la prise de conscience des soignants eux-mêmes qu'ils ont à défendre une certaine conception du soin. En développant, on pourrait dire, une éthique du soin. Alors, une éthique du soin élaborée au ras de l'expérience. Ça me frappe beaucoup. C'est-à-dire que du fond même de l'expérience des soignants arrive un certain nombre de questions éthiques. Comment je dois me comporter? Qu'est-ce qui naît de la pratique elle-même? Alors, c'est très frappant. Voilà. Donc, je pourrais dire la sécularisation. Le deuxième point, c'est la montée, alors ça pourrait se pister historiquement, mais c'est très frappant pour aujourd'hui, la revendication des subjectivités, et on pourrait dire plus globalement l'articulation entre subjectivité, réclamation des subjectivités, et la solidarité, voire la fraternité. On pourrait dire que la valorisation positive de l'individu, de sa subjectivité, une valorisation à laquelle a contribué notamment le christianisme. Voilà. On pourrait dire que ça aboutit à une forme, j'allais dire, de survalorisation de la subjectivité des individus, hein, et on pourrait dire au détriment de sa participation au social et à la fraternité. Aujourd'hui, on pourrait dire que la fraternité, alors on pourra en discuter entre nous, les tensions entre la fraternité et deux conceptions de la fraternité n'est plus, comme dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, un devoir des personnes, hein, article 1, mais elle est convoquée pour répondre aux désirs et attentes des personnes, ben, on pourrait dire, comme le fait d'une certaine manière le CCNE, en changeant le sens de la fraternité, désormais mise au service d'un projet de mourir, une fraternité qui s'exprime dans l'aide à mourir, c'est-à-dire un suicide assisté ou une euthanasie. La fraternité n'est donc plus un devoir de l'individu, mais un devoir pour l'individu. Voilà. Et à mon sens, ce n'est pas une tension, on pourrait débattre entre nous, entre deux conceptions de la fraternité, mais à mon sens, un voilement, ou je vais être un peu plus strict, un dévoiement du sens de la fraternité, à mon sens. Voilà. Trois conséquences de cette hypervalorisation de la subjectivité. On pourrait dire que la liberté devient la valeur suprême. Ça, c'est important. Alors, on fait des tentatives de rééquilibrer, c'est un mot que le CCNE aime beaucoup, équilibrer de façon complexe et problématique la solidarité et la liberté. Mais le débat, il s'infléchit. Alors, pour tous les observateurs du débat, initialement, il portait sur la dignité, n'est-ce pas, le droit de mourir dans la dignité. Et maintenant, le débat porte sur la liberté. C'est la liberté qui est l'argument majeur. Ça aussi, ça frappe dans l'évolution du contexte. C'est l'argument de la liberté qui est central, avec des arguments sur lesquels je pourrais revenir. Troisièmement, comment on pourrait dire conséquence de l'hypervalorisation de la subjectivité. Eh bien, il me semble que le sociétal a pris le devant au détriment du social. Malgré la prise de conscience écologique, le rapport de la liberté à la solidarité n'a pas été encore requis comme une question d'éthique sociale et politique. Les partis de gauche, on pourrait dire, assez globalement, ont délaissé le social pour le sociétal, mis à part quelques individus. On a des tribunes régulièrement, 22 juin, avec des députés de tous bords, y compris des communistes, quelques socialistes, etc. Et qui minimisent à l'extrême l'impact d'une future loi sur le lien social et politique, sur la défense des plus faibles et marginalisés, à commencer par les personnes âgées, et l'impact sur le lien ou l'alliance thérapeutique. Et dernier point de cette première partie, le contexte, il me semble qu'il y a aussi, on pourrait dire globalement, une certaine fatigue du soin, ou on pourrait dire une atteinte au sens du soin lui-même. La perte du sens social et politique de l'activité soignante pour beaucoup de personnes qui ne voient pas que cette activité est essentielle à la société. Alors, nous avons tous applaudi brièvement pendant le Covid, nous n'applaudissons plus et nous délaissons politiquement la santé publique. Il y a encore eu ce matin une grande tribune dans le Figaro, 160 parlementaires qui disent que notre système de santé est en train d'exploser. Voilà. Donc ça, c'est, on peut dire, le contexte général pour dire dans quel contexte les évolutions arrivent. Deuxième point, on pourrait dire comment procéder, l'enjeu de méthode. Alors, il me semble que se focaliser sur la conquête d'un nouveau droit, j'ai pas dit que c'est ce que vous défendez, hein, se focaliser sur la conquête d'un nouveau droit sans prendre en compte le contexte, conduit à prendre le problème à l'envers. Alors, il me semble que nous prenons un peu le problème à l'envers. En ne prenant pas en compte les attentes de soins de base, d'accompagnement, de soulagement de la souffrance au quotidien, dans la vie des personnes et notamment dans l'hospitalisation. Voilà. Et cette situation-là, elle est dénoncée de façon répétée depuis des années. Donc la tribune ce matin, le système de santé français est au bord du gouffre. Voilà. Je me demanderais pourquoi en fait cette constatation-là, elle est très indexée politiquement. Pourquoi pas une alliance de tous les partis pour dire attention. Voilà. Ces négligences entretenues, à mon sens, conduiront fatalement à des demandes de mourir par défaut de soins. Des demandes de mourir par défaut de soins et non pas par liberté. D'ailleurs, le CCNE, dans son avis 139, souligne ça. Cet avis s'inscrit dans un contexte marqué, à la suite de la crise sanitaire, par l'actuelle situation alarmante du système de santé et en particulier de l'hôpital public, CCNE. La pénurie inquiétante des professionnels de santé et leur souffrance soulignent une fois de plus le caractère essentiel de leur place dans l'accompagnement des personnes atteintes de maladies graves évoluées et le devoir de solidarité envers elles. Bon. Vous avez parlé des 21 départements sans service de soins palliatifs. J'ai pris un rapport de l'association, de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées, la FNADEPA. 1400 adhérents, 100 000 personnes. 82,6% des établissements et services manquent de personnel. C'est-à-dire, ça représente à peu près 4 équivalents temps plein par structure. 28 ont été contraints de fermer, 28% ont été contraints de fermer des lits ou de refuser des accompagnements à domicile, faute de personnel. C'est donc. Cette difficulté de méthode, elle était bien pointée par l'avis dans le CCNE, à la fin du CCNE, la réserve de 8 personnes, qui ont dit, contrairement à l'avis du CCNE, qu'il y avait des prérequis avant toute réflexion sur la question du suicide assisté et de l'euthanasie. Ils avaient dit notamment, de notre point de vue, ils n'étaient que 8 membres du CCNE, cette évolution ne pourrait être, cette évolution souhaitée, donc une future loi sur l'euthanasie et ou le suicide assisté, ne pourrait être discutée qu'à la condition sine qua non d'un certain nombre de prérequis soient d'ores et déjà effectifs. La connaissance, l'application et l'évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants. Un accès aux soins palliatifs et un accompagnement global et humain pour toute personne en fin de vie. Et puis, troisième point, une analyse précise des demandes d'aide active à mourir, ou à ses prérequis. Bon, LCCNE, en fait, n'en a pas tenu compte. Oui, on pourra débattre. Oui, un petit raccourci. Mais pas suffisamment, non, parce que je pense la vie... Non, pas, non, c'est vrai. Non, vous avez raison. Pas assez. Voilà. Et il me semble que ce problème de méthode est important parce que nous voulons tenir le « en même temps ». Mais à mon avis, le projet de loi, il a deux titres, vous l'avez bien souligné, renforcement des soins palliatifs et ouverture d'un nouveau droit. Mais ces deux projets obéissent à des temporalités extrêmement différentes. Pour fonder des soins, des services de soins palliatifs dans 21 départements, ce n'est pas la même temporalité que autoriser un geste létal. Des temporalités complètement différentes. Donc cette question de méthode me paraît très importante. Troisième point, j'ai encore combien de temps ? Troisième point, quelques éléments, enfin, pourquoi pour moi c'est problématique, vous avez dit c'est complexe, oui, mais c'est problématique, enfin, à mon sens. Il y a d'abord des questions de vocabulaire, tout le monde insiste là-dessus, en recitant Camus, je ne le ferai pas à ma manière, mais enfin, c'est quand même un problème de, j'allais dire, de noyer l'assistance au suicide et l'euthanasie dans ce beau mot d'aide à mourir. C'est vraiment, c'est pas très honnête. Le rabbin Corsia disait, ah ça va, il n'y aura pas d'euthanasie, pas du tout, c'est dedans. Voilà, bon. Et même peut-être l'Académie de médecine aussi. Bon, voilà. Donc là, il y a un problème de langage, de dire ce que l'on fait, le sens des mots. Pourquoi ne pas le dire, on pourrait dire. Bon. Deuxième point, les simplismes éthiques. Alors, on débat beaucoup, les soignants, donc moi, c'est dommage que je parle au nom d'un certain nombre de soignants qui ne peuvent pas être là, qui auraient dû prendre la parole avec un autre médecin. La bataille autour de est-ce que finalement l'euthanasie ou l'assistance au suicide est un soin ou n'est pas un soin ? Alors, il y a des grosses batailles autour de ça, mais à mon avis, c'est une vraie question, dire est-ce que c'est un soin ou pas un soin ? Ben, moi, il me semble, enfin pour moi, on pourra débattre si vous voulez, mais... Le soin, c'est l'établissement d'un lien de sollicitude en faveur d'autrui, de mobilisation de moyens, mais l'assistance au suicide et ou l'euthanasie, c'est une rupture du lien. Comment une rupture du lien de soin pourrait être qualifiée comme un acte de soin ? Parce que précisément, il enlève ce pourquoi le soin est fait au bénéfice d'autrui. Alors on pourrait dire c'est un soin ultime. D'accord. Ce n'est pas l'adjectif ultime qui suffit à le qualifier comme soin. Deuxième point. Alors, c'est peut-être des débats philosophiques, mais enfin, c'est intéressant. Est-ce que la mort est un acte de liberté ? C'est quand même une grande question. Comment la mort pourrait-elle relever d'un acte de liberté pour soi alors qu'elle arrête tout acte libre ? Est-ce que le propre d'une liberté, ce n'est pas de se vouloir comme être libre ? Qu'est-ce qu'une liberté qui ne se veut plus comme être libre, donc susceptible d'action ? Pour moi, ça me pose quand même un vrai problème dans l'abord de ces questions-là. Alors, le CCNE pointe ça à sa manière. Autre point, il me semble, tenir compte de l'angle mort de la vie psychique des patients, des proches et des soignants. Vraiment, il y a de grandes souffrances. Il y a des personnes, leurs proches, leur entourage qui n'en peuvent plus, c'est vrai, ça existe. Comment faire, comment les aborder? Mais il me semble qu'il faudrait tenir compte aussi de nos propres, si je suis la vie psychique, c'est qu'en fait nos avis sont très dépendants de nos propres itinéraires personnels, de nos expériences. Quand on aborde les questions écologiques, il y en a un certain nombre aujourd'hui qui font une éco-biographie. Pour comprendre son lien au monde, son lien à la nature, il faut que vous racontiez en fait qu'est-ce que vous aviez comme type de lien à la nature. Alors on fait une biographie de mon lien avec la nature, avec les vivants. Je veux dire, dans le même sens, il faudrait faire une thanatobiographie, c'est-à-dire quelle a été en fait votre expérience à vous de la rencontre de la mort. Est-ce que ça s'est bien passé, pas bien passé? Je suis très frappé en fait que nos propres opinions là-dessus, alors elles dépendent d'opinions philosophiques, etc., tout à fait d'accord, mais elles dépendent beaucoup aussi de nos propres expériences. Si on accompagnait des parents, des proches, et que ça s'est plus ou moins bien passé, on n'a pas le même réflexe qu'une personne qui était confrontée à des situations extrêmement difficiles, voire tragiques. Donc il faudrait prendre ça en compte, donc prendre en compte la subjectivité même de la personne qui argumente. Il y a aussi la complexité de la vie psychique. On pourra en débattre. La complexité de la vie psychique, le désir de mort est un désir aussi ambigu. Freud avait parlé de la cohabitation dangereuse entre Eros et Thanatos. On peut jouir de la mort. On peut jouir de sa propre mort anticipée. On peut se complaire dans ses pulsions de mort. Enfin, donc il y a une complexité psychique aussi de l'approche de la mort. Et chez les personnes concernées, et chez les soignants. On peut jouir de manière anticipée de la mort prévue. Et puis aussi, d'un point de vue psychique, nous sommes des êtres très perméables à ce que disent, à ce que vivent autrui, au type de regard que les autres entretiennent sur nous. Je suis frappé dans l'accompagnement des personnes âgées, c'est là que se révèle, on pourrait dire, la porosité psychique. C'est-à-dire le type de regard, le type d'opinion, le type de parole, ça semble entrer en nous. Et en fait, ça s'intègre en nous. Alors, pour moi, une loi comme ça, avec des êtres qui ont une grande porosité psychique, ça va produire un certain nombre de dégâts contre, on pourrait dire, l'affirmation souveraine d'une liberté qui décide d'en finir. Et puis quand on parle de cette ambiguïté psychique et des personnes soignées et des soignants, pourquoi finalement nous ne parlons pas à nouveau de le pouvoir exorbitant que nous allons donner aux médecins de décider ou pas que quelqu'un peut accéder à une forme d'aide à mourir ou pas? Quel pouvoir exorbitant? On a parlé beaucoup de le biopouvoir de Foucault, mais il faudra en parler encore maintenant. C'est comme si le biopouvoir de Foucault, ça servait qu'à argumenter pour un certain nombre de choses. Et puis le reste, j'ai prévu d'autres choses, mais j'en parlerai, on verra. Voilà. En fonction des débats, j'ai plusieurs ans.
Régis, vous voulez réagir?
Moi, je me retrouve, ce qui peut peut-être vous surprendre, assez bien dans ce que vous venez de dire. Je me retrouve assez bien dans ce que vous venez de dire, et on se le disait d'ailleurs avant de commencer cet échange. Je reprends le mot de complexité, et en face du mot de complexité, le médecin que je suis mettrait volontiers un peu d'humilité. Je ne peux pas affirmer grand-chose. Je pense qu'on ne peut pas être trop sûr de soi, y compris lorsqu'on regarde ces questions avec une grande complexité. En revanche, ce dont je peux être le porte-parole, c'est ce que j'essayais d'évoquer dans mon propos liminaire, c'est la question des souffrances, parfois extrêmement importantes, qu'éprouvent des personnes à la fin de leur existence. Alors ne nous y méprenons pas, je ne m'inscris pas, vous l'avez peut-être lu dans les médias, je ne m'inscris pas dans ce projet de loi comme s'il était une vérité. Et je partage votre avis sur... Je l'ai d'ailleurs, je crois, dénoncé dans un article récemment, le risque de l'euphémisation. Les mots, à mon avis, sont assez... ça va mieux ? Oui ? Oui. En revanche, je ne pense pas qu'on puisse ignorer la réalité que vivent certains patients. Je reviens sur ce que j'évoquais très brièvement tout à l'heure, parce que ça m'apparaît, cet angle mort du progrès que j'évoquais, enfin le mot angle mort peut-être pas très bien choisi non plus, mais vous voyez, on parle d'angle mort parce que tout simplement on n'a pas voulu le regarder peut-être, il y a quelque chose d'un déni autour de tout cela. plus la médecine progresse, plus elle guérit. C'est le progrès. Et plus les avancées techniques et scientifiques engendrent des situations nouvelles, en quelque sorte impensées. Je pense à des situations de survie possible dans des états qui sont difficiles à vivre pour certaines personnes. Pas tout est loin, s'en faut. Et pour certaines encore plus rares, impossibles à vivre. Je pense en particulier aux conséquences des progrès dans le champ de la cancérologie, par exemple. Progrès évident, enfin, on guérit aujourd'hui plus de la moitié des cancers dont on mourait il y a encore quelques décennies. Donc il ne s'agit pas de nier tout cela. Mais on a engendré des possibilités de vivre avec la maladie. En général, on peut vivre, voire même on peut avoir une forme de transcendance lorsqu'on vit avec la maladie qui a modifié son rapport à soi, son rapport au corps, son rapport aux autres, mais on ne le peut pas toujours. Il y a aussi des vies qui ne sont plus que souffrance. Très rare, pour ne pas dire exceptionnel, je n'ose pas utiliser ce mot, mais c'est de cet ordre quand même. Si je prends maintenant l'exemple des maladies neurodégénératives, neuroévolutives, c'est peut-être l'exemple le plus marquant pour moi. Plus on progresse et on progresse lentement, mais peut-on parler de chance, on a des perspectives en tout cas de vraie progression dans les maladies neurodégénératives dans les décennies qui viennent. Fort de l'expérience de l'oncologie, de la cancérologie, qui a vu le progrès mais qui n'a pas peut-être pensé l'accompagnement de ce qu'il pouvait engendrer comme souffrance. Nous voyons aujourd'hui des personnes qui vivent, pour certaines d'entre elles, rares, la maladie comme une succession de la maladie neuroévolutive comme une succession de pertes. Et dans l'expérience qui est la mienne d'un médecin faisant depuis très longtemps des soins palliatifs et un peu cantonné à l'âge qui est devenu le mien à des situations qui sont celles dont je parle, je suis face à des personnes qui posent la question de la perte de trop pour elles, pas pour moi. Pour elle. Je pense en particulier à des personnes pour qui la perte de la possibilité de s'exprimer est quelque chose de majeur. La perte de ce qu'on appelle l'autonomie, on pourrait en discuter, mais est quelque chose de majeur. Je pense à des choses plus terre à terre, mais la perte du contrôle de soi et de ses sphincters, par exemple, est quelque chose qui peut apparaître comme épouvantable pour certaines personnes. Je pense à des personnes qui se retrouvent dans des états de dépendance extrême, voire de perte de leur autonomie de décision, du fait de l'intervention de la médecine, pas à cause d'elle, du fait de l'intervention, et pour un temps d'existence qui est le temps d'une vie, en quelque sorte. Je différencie existence au sens où l'on peut donner un sens à son existence, et la vie au sens biologique du terme. Toutes ces situations imposent, de mon point de vue, réellement, un changement dans l'organisation même de notre système de santé. Vous remarquerez que je n'emploie pas le mot et je ne réduis pas la notion de système de santé au système de soins. C'est la raison pour laquelle, de notre point de vue, nous devons réfléchir à ce qu'accompagner la détresse humaine veut dire. Et en même temps, nous devons réfléchir à ce que soigner la personne veut dire. Dans une période de crise du système de santé. Crise du système de santé qui peut être interprétée à certains égards comme une crise du sens de ce que soigner veut dire pour les soignants et du sens de ce que vivre peut vouloir dire pour des personnes malades qui, dans un système de santé, ne se trouvent pas respectées, ni les unes ni les autres, et dans une société, de fait, se sentent parfois en situation de ce qu'on a appelé d'indignité. Elles ne sont pas indignes, elles éprouvent un sentiment d'indignité. Vous évoquiez les personnes âgées dépendantes, c'est quelque chose qu'on a fait émerger dans des travaux de recherche, ce sentiment d'indignité qu'on voit aujourd'hui chez des personnes atteintes de maladies chroniques ou chronicisées, qui ne rime pas avec indignité, hein, je pense être clair dans mon propos, mais qui impose un regard, un changement du regard, et un devoir de solidarité vis-à-vis de ces personnes. Voilà l'enjeu, à mon avis, complexe, à la fois prendre en compte ces réalités humaines qui ne croisent pas forcément. Qui serais-je pour parler du sens de la vie d'autrui? Donc qui croise à la fois la nécessité de développer, mais d'une façon beaucoup plus importante que ce qui a été fait aujourd'hui, ce qu'on appelle l'accompagnement et les soins palliatifs, de l'anticiper, ce qui impose aussi de repenser l'action du soin et ce qu'on doit faire en médecine au seul motif que l'on sait faire. Si faire contribue à faire souffrir. Alors, en même temps que je vous dis ça, je mesure la complexité qu'il y a derrière tout cela. Parce que ne pas faire serait peut-être interdire l'accès au progrès. Mais si le progrès s'accompagne de cette dimension, comment faire avec ces situations complexes? Et puis comment faire avec ces situations qui sont très rares? Alors moi je m'appuie quand même pas mal sur des rares, trop rares, travaux de recherche. On verra si on parle de cette stratégie décennale qu'un des enjeux, c'est le développement de la recherche autour de ces questions-là, parce que nous débattons beaucoup, mais la recherche peut aider à éclairer le débat. Je ne dis pas qu'elle le résoudra, mais c'est la fonction même de la recherche. Et il se trouve que la recherche sur ces questions de souffrance et de fin de vie est quand même, à mon avis, insuffisante, très largement insuffisante, pour qu'on puisse affirmer quoi que ce soit. On peut débattre, heureusement, mais il est difficile d'affirmer beaucoup de choses. En tout cas, ce qui a été fait comme travaux autour des demandes d'aide active à mourir, c'est toute la place qu'occupe l'accompagnement en face de ces demandes, l'écoute de ces demandes, l'accompagnement de la souffrance qui les sous-tend, l'obligation qu'il y a, à mon avis, de mettre en œuvre cet accompagnement de la souffrance humaine. Et les travaux qui sont quand même un peu publiés là-dessus montrent que la réalité des situations où l'on pourrait penser qu'une demande correspond à la volonté d'une personne est considérablement réduite. Cette demande ne signe pas la volonté, loin s'en faut. Je pense que les chiffres n'ont pas beaucoup d'importance quand je vous parle de situations ou de questions exceptionnelles, parce que les chiffres, compte tenu des travaux dont on parle, qui sont souvent utilisés, d'ailleurs manipulés, ne sont pas si importants que cela. Mais de fait, ces travaux le montrent, la grande majorité des demandes, si elles sont accompagnées, si elles sont analysées, n'aboutit pas à l'expression, au maintien d'une volonté de mourir et à la demande d'aide à mourir. Je termine juste par un point qui m'apparaît important, parce que je l'ai dit en préambule, mais je le développe. C'est aussi tout cela qui nous amène à dire combien la question de l'assistance au suicide est, de notre point de vue, assez éloignée de la question de l'euthanasie. Je voudrais... J'ai eu la chance, il y a quelques années, de participer à la mission qui avait été confiée à Didier Sicard par le président Hollande. C'était une première, une des missions. Nous étions allés en Oregon, où j'avais pu analyser. Je garde des contacts en tant que chercheur avec ceux qui travaillent sur l'assistance au suicide en Oregon. Je prends cette référence parce qu'il y a au moins des données. Et je reste impressionné par le fait que depuis 1997, date de la dépénalisation dans cet État, il y a eu d'autres États qui ont pris la suite aux États-Unis, mais c'est l'État un peu historiquement qui a engagé les choses, le taux d'assistance au suicide n'augmente pas. Il est de 0,2% des décès, mais il ne bouge pas depuis cette époque. Et ce qui ne bouge pas non plus dans les analyses qui sont faites tous les ans, ça fait partie aussi des choses qu'il faudra que nous sachions faire, évaluer, parce que nous ne savons pas évaluer ce que produit l'évolution du droit ou la politique aujourd'hui. Mais de façon presque invariable, année après année, le nombre de personnes qui ont demandé l'assistance au suicide et dont la demande a semblé correspondre à la volonté au point qu'on leur ouvre ce droit d'accès à un produit létal, un tiers, de façon constante depuis cette époque, un tiers à la moitié de ces personnes ne vont pas chercher le produit létal qu'elles ont demandé, et un quart à un tiers de celles qui sont allées chercher ne l'absorbent pas. ce qu'on a appelé, c'est de l'interprétation, cette fois ce que je vous dis, une ambivalence ultime autour de cette question-là, nous apparaît être absolument à respecter. Mais, évidemment, si le législateur va dans ce sens-là, je trouve que le législateur ne va pas dans le sens de ce qu'il appelle, enfin de ce que le projet de loi appelle l'aide à mourir, je sais qu'il y a eu des commissions sur le vocabulaire, etc., mais je ne me retrouve pas dans cette terminologie, se posera la question des personnes qui, effectivement, en termes d'équité, pourraient avoir un accès à l'assistance au suicide, mais ne pourraient pas elles-mêmes se suicider. C'est dans l'expérience de ces pays quelque chose d'encore plus rare que la situation rare dont je viens de vous parler. Encore plus rare, mais à tel point complexe que certains pays ont mis en place des dispositifs qui font que c'est encore la volonté de la personne qui fait qu'il s'administre ou pas. Le ou pas étant pour moi fondamental, le produit létal. Je m'arrête là, mais voici quelques réactions pour moi à ce que vous disiez, qui m'apparaissent des éléments à apporter pour éclairer la complexité, si tant est qu'on puisse l'éclairer, de cette question.
Voilà, merci beaucoup. Vous avez abordé, monsieur, donc, une partie de statistique, entre guillemets, et puis, une partie des statistiques, et puis j'aurais souhaité aussi aborder une question d'histoire. Donc, sur la statistique, sauf à me tromper, ce que j'ai lu sur ce qui se passe en Belgique, où la dépénalisation de l'accompagnement actif à mourir par un médecin date de 2002, aujourd'hui, en 2022, il y avait 2,5% des décès qui étaient liés à un suicide assisté ou un suicide, et en croissance de 10% versus 2021. Euthanasie. Donc, c'est 10 fois ce qui se passe dans l'Oregon, si je comprends bien.
Mais ce n'est pas la même chose. Vous parlez bien d'un pays qui a dépénalisé l'euthanasie.
Oui.
Et moi, je faisais référence à des études sur un pays qui a dépénalisé l'assistance au suicide.
D'accord.
Et effectivement, mais vous avez raison. Les chiffres que vous nommez sont des chiffres, et ceux que je nommais sont d'autres chiffres, pour une autre réalité.
Pour une autre réalité, mais ça traduit quand même le fait que ça concerne quand même beaucoup de gens. En France, il y a 800 000 décès par an, ça ferait 20 000 personnes, hein, quelque chose comme ça, je ne peux pas me tromper dans mes maths.
Aux Pays-Bas, j'avais des chiffres de 5% des décès multipliés par 4 en 20 ans. Ce qui correspondra à peu près à 30 000 par an en France. Je ne sais pas si ce sont des chiffres.
Donc le second point, c'était un point sur l'histoire, et vous disiez qu'on ne pouvait pas voir ce qu'allait donner une loi dans le futur. Alors moi je me réfère qu'à ma loi sur l'IVG, qui n'est peut-être pas de même nature, mais enfin qui... Bon. Sur l'IVG, sauf à me tromper, donc là encore, lorsque la loi a été votée en 1975, on avait un délai légal de 10 semaines, aujourd'hui il est de 14. On avait un délai de réflexion qui a été supprimé. On a élargi le nombre de personnes qui pouvaient le faire aux sages-femmes. Pour les mineurs, on avait une autorisation parentale qui a été supprimée. Et on a enfin supprimé la notion de détresse. Hein. Donc, et récemment, à l'occasion du débat, on a parlé d'une lente conquête d'un droit. Donc une de mes inquiétudes sur cette loi sur l'aide à mourir, c'est celle de savoir jusqu'où on va dériver. On voit, je sais pas, en France, je crois qu'il y a 200 000 avortements par an pour 600 000 naissances, quand même, hein, rapport de 1 à 3. Où va-t-on aller dans le cadre de cette aide active à mourir? Y a-t-il, une fois qu'on ouvre la porte, est-ce qu'il y a quelque chose qui va arrêter le flux, entre guillemets?
Il s'agit d'être inquiet. On ne peut pas appréhender les questions de fin de vie et les questions d'une évolution éventuelle du droit sans penser ce qu'il peut être fait de cette évolution. Mais il faut peut-être pas, avant tout, avant que le droit n'existe, se dire que ce droit sera dévoyé, en quelque sorte. Et vous citez, je me permets d'insister parce que je pense que c'est très important, vous citez des exemples qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce dont je vous ai parlé. Quand je vous parle d'un pays qui fournit des données annuellement, qui est l'État de l'Oregon, à la suite d'une dépénalisation de l'assistance au suicide, de 1997 à 2024, il n'y a pas d'évolution, pas de dérive, me semble-t-il. En revanche, vous avez raison dans ce que vous dites, me semble-t-il aussi. Et encore une fois, je pense qu'il faut beaucoup de modestie, je connais moins. Et je pense que nous disposons de moins de données pour pouvoir les analyser avec objectivité, ce qui se passe en Belgique et aux Pays-Bas. Il y a des travaux qui ont été faits dessus, qui vont dans le sens de ce que vous dites, qui disent qu'il y a une évolution, puis les chiffres sont parlants, sont une évolution réelle. Moi, nier l'ambivalence ultime d'une personne qui exprime une volonté de mourir, quand bien même cette volonté a été analysée par un collectif, j'en profite pour dire que ce que j'ai lu du projet de loi, l'évaluation de la volonté de mourir n'est pas le seul fait d'un, mais de deux médecins, voire d'un collectif avec des soignants. Alors, il est marqué qu'il y a au moins un paramédical qui est dans, enfin en tout cas je l'ai relu tout à l'heure dans le train, et au moins, donc on ne peut pas caricaturer, me semble-t-il, ce qui est écrit dans le texte, il faut juste le citer. Mais parce que pour moi c'est important de dire qu'appréhender la volonté d'une personne autour de sa fin de vie ne peut pas être le fait d'une seule subjectivité. Donc ça m'apparaît important. Croiser les regards sur un sujet aussi complexe, c'est au moins une nécessité. Et quand bien même on arrive, c'est ce qui se passe dans l'état auquel je fais référence, cette personne rentre dans le cadre, eh bien la personne hésite. Et cette hésitation me semble être essentielle à respecter.
Oui, très bien. Mais on n'est pas dans le cas de l'Oregon. Moi, j'aurais estimé que c'était un moindre mal, même si on aurait pu être critiqué. Mais on n'est pas dans l'état de l'Oregon. C'est pas du tout la solution qui est adoptée, puisque la solution qui est adoptée, c'est à la fois l'assistance au suicide, qui peut être médicale.
Je suis pas d'accord avec vous. Non, je suis pas d'accord avec vous. Enfin, allez
dans
au bout
projet,
de votre. Allez au bout de votre.
C'est pas du tout ce que nous avons choisi en France, pour l'instant, dans le projet.
Vos mots sont importants quand vous dites que ce n'est pas du tout.
Oui.
Pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec le pas
alors,
du tout.
Alors,
ça n'est pas ce que nous avons adopté.
Je vais préciser. La solution qui est requise ici, pour l'instant, dans le projet de loi, ne consiste pas à adopter la solution de l'Oregon. Voilà. Pourquoi ? Eh bien, parce que. Dans la procédure, il y a la mention que si la personne n'est pas en état de prendre le produit létal, c'est quelqu'un d'autre qui l'administre. Donc on passe en fait d'une assistance au suicide, qu'elle soit médicale ou par un proche, voilà, à un véritable acte qualifié d'euthanasie par les définitions classiques du CCNE.
Vous voyez bien que ce n'est votre propos qui... affirme que ce n'est pas du tout. C'est le
du tout au sens où on a ajouté quelque chose.
Alors,
mais vous avez été très clairvoyant dans l'avis du CCNE parce que vous avez très bien dit, si nous autorisons l'assistance au suicide, que l'assistance soit médicale ou par des proches, ipso facto, la demande d'égalité va se manifester. Je pense que vous avez été extrêmement lucide. Et donc, le projet qui est proposé, il prend en compte ça d'emblée. Donc, encore une fois, ce n'est pas une solution de l'Oregon. On aurait pu prendre une solution de l'Oregon. On aurait pu prendre une solution à la Suisse, j'y crois pas du tout, mais enfin voilà. Mais à la solution de l'Oregon.
On aurait aussi pu prendre une réponse qui est celle que vous évoquiez de la Belgique et des Pays-Bas. Ce n'est pas du tout celle-ci. Le pas du tout s'applique, à mon avis, par rapport à ces législations. C'est-à-dire que la question de l'aide active à mourir, de l'euthanasie, si j'ai bien lu, encore une fois, moi aussi, le texte n'est à envisager que si et seulement si la personne n'est pas en capacité de se suicider.
Oui, mais on qualifie ça en termes éthiques et en droit. Enfin, pour l'instant, on va peut-être tout noyer sur l'aide à mourir.
Non, mais on est d'accord sur la terminologie.
Ça d'une euthanasie, bah oui. Enfin, je reprends vos définitions dans l'avis du CCNE. Donc vous voyez, ce que je veux dire par là, alors moi j'ai vraiment la complexité dont vous témoignez, l'ambivalence des personnes, c'est pour ça que j'ai parlé de la dimension psychique, parce que la souffrance, elle est multiforme, la souffrance, voilà. Elle est relationnelle, elle est psychique, elle est physique, elle est même spirituelle, on pourrait dire, voilà, le sens de la vie, etc. Donc elle est multiforme. Et du coup, la question de l'ambivalence, elle est toujours là. C'est-à-dire, et même dire qu'une personne veut, entre le désir et la volonté, il y a une grande marge. Moi, je peux avoir le désir de mourir. Est-ce que j'ai la volonté? C'est autre chose. Et ce dont vous témoignez, c'est qu'entre l'acte d'aller chercher la pharmacie et l'acte de le prendre, on pourrait dire qu'il y a le passage d'un désir ou de phénomène de réassurance. Si jamais ça m'arrive, je le prendrai. Et vous avez très bien dit, les statistiques le montrent, vous avez très bien dit que, en quelque sorte, c'est une sécurité. On pourrait dire, en fait, c'est intéressant parce que la souffrance, elle est aussi anticipée. Donc il y a de l'imaginaire, il y a de la projection. Il y a plein de choses qui se déroulent autour de ça. Donc la solution de Regol, on pourrait dire qu'elle traite l'imaginaire d'une certaine manière. Elle anticipe les souffrances en disant, si jamais ça arrive, vous aurez quelque chose.
Et d'ailleurs, dans les chiffres de l'Oregon, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir que l'ensemble des personnes trouvent que c'est rassurant de pouvoir avoir cet accès potentiel et très peu l'utilisent en réalité.
Et puis un point que je voulais mentionner aussi du projet de loi tel qu'il est formulé, c'est qu'il combine, on pourrait dire, deux types de souffrances, une souffrance réfractaire, et si on dit réfractaire, c'est qu'on a supposé qu'il y a des moyens, ceux de la médecine, les sédations, etc., qui peuvent être efficaces ou pas, souffrance réfractaire ou insupportable. Mais c'est là aussi où ce que je disais auparavant sur l'argument de la subjectivité, personne n'ira dire à quelqu'un « votre souffrance n'est insupportable ». Donc en fait, une souffrance insupportable n'est évaluable par personne, sauf qu'il a. Donc, c'est le genre d'argument, en fait, en droit, on ne sait pas bien quoi en faire. Et pour le médecin, il ne saura pas quoi en faire. Vous avez devant vous quelqu'un qui dit « ma souffrance est insupportable ». Qui êtes-vous pour lui dire « pas du tout, monsieur, vous allez en bonne santé, on va trouver des moyens de vivre avec ça, on va vous accompagner ». Mais s'il vous dit dans les yeux « ma souffrance est insupportable », je demande, vous ne pourrez pas lui dire non, s'il rentre dans les critères. Et du coup, vous voyez, ce que je veux pointer par là, c'est que la combinaison de souffrance réfractaire et souffrance insupportable dans le même article pose, à mon sens, énormément de problèmes.
J'espère qu'elle en posera au Conseil d'État qui est en train de regarder ce texte.
J'en suis pas si sûr, mais enfin on verra.
Ah, non, on peut ne pas en être sûr, mais on peut n'être sûr de rien. Mais moi, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a des personnes qui présentent, je vous le redis, des souffrances dont il ne s'agit pas, à mon avis, par un revers de manche, de dire qu'elles ne sont pas à prendre en compte. Non, c'est quelque chose d'essentiel pour moi entendre qu'aujourd'hui, nous avons, du fait même des avancées de la médecine, engendrer de nouvelles figures de la fin de vie.
Et c'est quelque chose d'accord avec vous, ce soir.
Oui, non, mais je m'en doute bien. Et c'est cette situation-là que nous devons interroger. Je ne dis pas que les réponses qui sont prévues sont bonnes. D'ailleurs, je ne suis pas le signataire.
On est là pour débattre aussi d'une loi qui est présentée au Conseil d'État.
Voilà, elle est présentée au Conseil d'État. Et que je sache, le Conseil d'État est quand même assez rigoureux. De mon point de vue sur ces aspects.
Moi, je trouve que vous avez pointé très bien, voilà, ces nouvelles figures de la fin de vie, en disant que, même si au début vous avez commencé par nous dire que le progrès médical, je vous l'accorde, est un bien, mais vous dites aussi qu'on ne s'est pas suffisamment interrogé sur les conséquences, et que c'était dans l'angle mort, vous avez parlé même de déni, donc on a quand même l'impression que ce travail éthique, il est prioritaire, et on aurait envie de dire, avant que les progrès de la médecine nous amènent à devoir médicalement aider quelqu'un à mettre fin à sa vie, ça veut dire qu'on a à un moment donné appuyé sur la pédale d'accélération trop fort, et ça partait d'un désir de bien faire. Mais bon, j'ai l'impression, vous dites vous-même, c'est des questions qui sont nouvelles, mais on peut que espérer que la réflexion éthique s'en empare vraiment. Et en même temps, il y a quand même un enjeu symbolique très fort derrière. C'est-à-dire, s'en emparer, c'est quand même considérer qu'on doit tout faire pour ne pas mettre fin à une vie humaine. Voilà. Donc, enfin, il y a une question là symbolique énorme qui motive le travail de la recherche. Enfin, c'est pas vraiment une question. Enfin, je vois que vous voulez réagir, mais.
Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Et, un enjeu majeur, et peut-être on aura l'occasion d'en discuter, parce que c'est une des mesures, à mon avis, essentielles de la stratégie des CEDAL pour le développement de l'accompagnement et des soins palliatifs. Un enjeu majeur, ça va être d'introduire une formation réflexive dans les études médicales. Alors, je suis d'accord, le temps que cela produise un effet, mais enfin, si on ne commence pas, on n'aboutira jamais. Et on voit bien aussi qu'il est difficile de changer ce mastodonte, hein, qui est celui des études de médecine. Mais nous rencontrons d'ailleurs prochainement la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour essayer de la convaincre. Nous rencontrerons aussi prochainement le président de la conférence des doyens pour les convaincre de la nécessité d'apprendre aux étudiants en santé et pas simplement en médecine, parce qu'il s'agit d'appréhender de façon interdisciplinaire ces questions et pas uniquement, vous parliez du pouvoir qu'on donne finalement aux médecins, et c'est juste ce qu'il faut. Il faut sortir de cette dimension et s'imaginer que cette approche doit être interdisciplinaire. Un des enjeux n'est pas tant d'apprendre les soins palliatifs et l'accompagnement, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais d'apprendre à douter, d'apprendre à questionner, à problématiser, à se demander si faire au seul motif que l'on sait faire, c'est forcément faire du bien. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Pardon, c'est fondamental si on peut prendre, comme ça a été annoncé, on peut dire qu'on va créer des unités de soins palliatifs dans tous les départements. On peut le dire. Moi, dont je peux vous parler, c'est qu'on est en train d'enfermer des unités de soins palliatifs. Et on enferme parce que nous, on n'a pas les moyens de faire tourner un système de santé dont les unités de soins palliatifs. Donc, ça n'est pas, à mon avis, nécessaire de prendre cet étendard, de vouloir créer ce que l'on ne pourrait pas habiter, finalement, avec des compétences. En revanche, il va falloir urgemment développer ce qu'on a appelé une culture du doute, une culture palliative, une culture du questionnement, une culture de l'interdisciplinarité, pour appréhender avec modestie ces questions complexes. On va faire référence à Edgar Morin sur la complexité dans le champ de la santé et la nécessité de l'approche interdisciplinaire autour de ces questions. Et ça m'apparaît être fondamental. Et cela, ça veut dire aussi qu'il faut peut-être, corrélativement à ce que je vous dis, sortir d'une vision qui est devenue très sanitaire et très médicale du soin palliatif. Finalement, la question n'est pas que celle de la médecine et des médecins qui l'incarnent, c'est aussi celle d'une société. Qu'est-ce que notre société veut développer en termes de solidarité. Je fais partie, mais enfin, je pense que nous sommes d'accord là-dessus, de ceux qui pensent que sans solidarité effective, hein, parce que nous ne manquons pas de solidarité dans les discours. Je ne parle pas des discours, je pense de l'effectivité qui peut ou pas suivre les discours. Sans solidarité effective autour des vulnérabilités, des personnes en situation de vulnérabilité, je pense que nos sociétés courent à leur perte. Et que une société qui oublie la solidarité est une société qui s'oublie elle-même. Donc, nous avons à développer un enjeu social et sociétal. Sociétal ou social, je différencie bien les deux champs autour de tout cela. Il va falloir aider les aidants, les accompagner, valoriser l'accompagnement, qui n'est pas uniquement une histoire de soignants et de médecins. Vous le savez peut-être, dans cette perspective de stratégie décennale, ce qui est envisagé, c'est entre autres de créer des lieux d'accompagnement qui ne sont pas forcément des lieux sanitaires. On appelle ça des maisons d'accompagnement. Là encore, les mots, à mon avis, peuvent être discutés, mais je vous propose qu'on ne s'arrête pas sur les mots, même si je trouve qu'il faut s'y arrêter, et on eût bien fait de s'y arrêter un peu plus là avant l'écriture de ce projet de loi. Mais je pense que nous essayons dans cette stratégie d'élargir le champ de l'accompagnement en dehors du champ de la médecine. Étrangement, notre société s'est tournée vers la médecine pour essayer peut-être dans l'illusion de sa responsabilité, en quelque sorte, autour de tout cela. Mais il faut revenir à cette dimension, et ça m'apparaît important. C'est un enjeu de la stratégie décennale qui est très important. À terme, si les moyens sont donnés, et encore une fois, là il va falloir, je vous ai parlé des moyens qui étaient envisagés et qui semblent être validés, Si les moyens sont donnés, c'est de 300 à 400 de ces structures qu'il faudra créer dans les lieux de vie et la proximité des lieux de vie des personnes. On est bien loin des quelques unités de soins palliatifs dont ne sont pas dotés des départements. Je ne dis pas qu'il ne faut pas à terme en créer, mais ça n'est qu'une partie de la question. Et je pense que vous comprenez le sens de cela. Il faut sortir la question de la fin de vie de celle de la stricto sensu de la médecine.
Oui, bon, je suis tout à fait d'accord. On verra, ça fait longtemps qu'on rêve d'une médecine de la personne. J'ai un peu pisté les choses. Dès les années 1940, il y avait déjà des gens qui disaient « il nous faut une médecine de la personne parce que la technique engendre une sectorisation, une déconsidération des personnes dans leur globalité ». Donc c'est, on va dire, c'est lointain, c'est devenu plus actuel, il y a des projets, il y a des plaidoyers pour une médecine de la personne aujourd'hui. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous pour la prise en compte holistique et systémique du soin des personnes. Je prends le soin au sens d'opérateur global. Hein. Donc ça, tout à fait d'accord avec vous là-dessus, sur la manière d'approcher. C'est pour ça que la question de la méthode est très très importante. Alors, d'accord aussi avec la complexité. Je pense qu'ici, on honore un peu la complexité ici. Enfin, on n'a pas trop... Je pense pas qu'on est trop simpliste ici. Néanmoins, il faut à un moment donné dire on autorise ou on n'autorise pas. Vous voyez, ça me préoccupe beaucoup. Depuis longtemps, il y a des médecins qui disent bon, je sais pas bien, je suis dans le tragique, je prends une décision. Bon, ça peut être une exception, etc. Bon, j'ai pris ma décision. Voilà. Mais autoriser, c'est autre chose. Il y a un marqueur fort. Et l'expérience des autres pays, regardez ce qui se passe au Canada, c'est plus de 8% des personnes quand même. Et au Canada, attention au Canada, ce sont les médecins eux-mêmes qui demandent que la loi aille plus loin. Les médecins. Et donc, il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive aussi quand on franchit un interdit? Alors, je ne suis pas de ceux qui diraient il n'y a pas de situation complexe, il n'y a pas de gens qui sont réfractaires. Non. Il y a des situations honnêtement très compliquées. Maintenant, ce qu'il faut évaluer, une fois qu'on a dit qu'il y avait de la complexité, c'est quand même qu'à un moment donné, il faut se décider. Pour une loi, j'entends. Une loi. Hein. Je ne parle pas des gens en situation de soin. Je dis pour une loi. Il faut se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'on va décider, non seulement pour les personnes, et on va décider pour le corps social tout entier, avec les répercussions sur le corps social. Mais que vous pointez très bien. C'est pour ça que pour moi, la question, c'est par quoi on commence. Hein. Et pour la réserve des 8 personnes dans la vie du CCNE, on commence par les prérequis. Et après, on regarde ce que ça donne. Il y aura toujours des cas réfractaires. Oui, d'accord. Mais les médecins en font aussi avec des cas réfractaires. Enfin, il faut ce qu'ils peuvent. Et puis, on n'en a pas parlé. Il y a vraiment une différence entre la fin de vie et la vie menacée à moyen terme. Parce que le moyen terme, il va fluctuer comme ça, voilà. Alors ça aussi, pour moi, ça pose question. Votre rapport, puis plein de médecins aujourd'hui, enfin, disent, bon, la fin de vie, on se débrouille pas trop mal, quoi. Enfin, bon. Je crois que le CCNE a dit, bon, ça va, grosso modo. Ça va, on peut améliorer la formation à la sédation, tout ça. Il y a encore des gens qui sont incapables, même des médecins, qui ne distinguent pas la sédation de l'euthanasie. Hein. J'ai encore entendu ça ce week-end. Hein. Non, mais c'est quand même assez grave. Bon, voilà. Donc ça va. Mais par contre, le franchissement d'un interdit fondamental, je veux dire, personne ne sait ce que ça va donner. Et personne ne sait. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Simplement, les expériences dans les autres pays, j'ai tous les chiffres ici, Pays-Bas, Québec, voilà, etc., ça invite à la prudence. Donc, qu'il y ait des exceptions, que les médecins fassent des exceptions, c'est pas d'aujourd'hui, encore une fois, c'est pas d'aujourd'hui. Par contre, globalement, envoyer un signal fort aux gens, on dit c'est autre chose.
Allez-y, Régis, puis ensuite on va passer là. Le terme autorisé est un terme qu'il faut effectivement, à mon avis, travailler. Vous dites, qu'est-ce que ça signifie autoriser? En droit, on distingue quand même la légalisation de la question de la dépénalisation. Et c'est donc une autorisation sous condition. Et à mon avis, c'est quand même important de ne pas parler d'une autorisation qui serait totalement ouverte. Je partage ce que vous avez dit et ce que vous disiez. Vous y avez ajouté le Canada, mais je vous rappelle que ce sont des pays qui ont dépénalisé l'euthanasie. Je reste très collé aux chiffres et aux références que je vous ai données tout à l'heure pour dire qu'on peut ne pas avoir de dérive. On peut. On peut en douter. On doit en douter. C'est le jour où ça ne pose plus de questions, hein, à mon avis, qu'on commence à être dangereux. Hein, mais... voilà. Et puis, effectivement, vous avez raison, il y a eu ce débat au sein du CCNE avec un avis majoritaire, un avis minoritaire, comme souvent hein, d'ailleurs, hein, on publie les avis parce que justement, il y a des points de tension, des points de butée comme ça qui sont intéressants en eux-mêmes à publier. L'avis majoritaire dit oui, vous avez raison, il faudrait dans l'absolu que l'on ait réellement une vraie culture des soins palliatifs qui soit en œuvre, en place et effective. Mais les souffrances dont on parle existent quand même. C'est un premier point, et donc on attendrait vis-à-vis de ces souffrances. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que...
On n'attend pas. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas médecin ici, donc je peux pas le dire. À leur place, c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre. Mais enfin, ils attendent pas. Ils font des choses, enfin, ils font qu'ils peuvent. Ils proposent la lutine, ils peuvent proposer une sédation profonde.
Mais non, justement.
Attendez,
je vous réponds parce que
les médecins attendent, je suis pas d'accord. Ils font des choses, enfin voilà.
Non, mais je ne vous ai pas dit que les médecins attendaient. Oui, mais est-ce que j'ai dit les médecins? Vous voudriez me faire dire ce que je ne dis pas? Ça n'est pas ce que j'ai dit. Non, mais ça n'est pas ce que j'ai dit. Donc, le on est le législateur dans mon. C'est pas le médecin. Donc je le précise. Voilà. Mais c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, on y avait travaillé d'ailleurs avec l'Institut national des études démographiques, une équipe de recherche à laquelle je suis associé. On avait essayé d'explorer la réalité des dérives qui existent en l'absence et du fait de l'absence de loi. Un des enjeux, mais tout cela est discutable et on est là pour en discuter, hein, mais un des enjeux, c'est de sortir d'une réalité qui semble pas si infime que cela, dans des pratiques qui, parce qu'elles ne sont pas explicites, parce qu'elles ne sont pas argumentées, et parce qu'elles ne sont pas tracées, ouvrent des possibilités aujourd'hui qui sont, à mon avis, celles de l'opacité, de la décision individuelle, etc. Il ne faut pas nier le fait qu'aujourd'hui, il y a, je vous renvoie à des travaux que nous avons publiés sur cette déréalité de dérive. Alors, on a fait dire aux chiffres des choses qui sont totalement erronées. Il y a effectivement des députés excusez-moi de parler comme ça, mais qui ont transformé des chiffres, extrapolé des chiffres, qui étaient des chiffres sur lesquels il se trouve que j'avais travaillé. Donc, les extrapolations ne sont pas scientifiques. Hein. Mais, alors, donc je suis incapable, moi, de vous dire combien. Mais les réalités, dans les enquêtes que nous avons faites, quantitatives et qualitatives, de dérives existantes actuellement, ne sont pas à ignorer. Et à mon avis, il faut quand même avoir ça en tête lorsqu'on essaie prudemment de faire évoluer et les politiques et le droit. Mais je le dis avec beaucoup de prudence, comme vous le voyez, parce que je pense qu'effectivement, il y a des risques, c'est ce que vous évoquez.
Mais la loi n'éliminera pas elle-même des dérives. Rien ne remplace la conscience des soignants.
D'où la nécessité d'accompagner ça de la formation et de l'éducation.
Mais voilà, dire il y a des dérives, donc on va autoriser. Ça, enfin, c'est pas comme ça que vous raisonnez. Mais d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais c'est pas parce qu'il y a des dérives que la loi est mal faite. Il y a aussi la conscience éthique de chacun. Parce qu'on n'a pas parlé aussi d'une chose, c'est qui fait le geste. Et les répercussions psychiques et éthiques sur les personnes. Et les services, enfin, j'accompagne quelques groupes qui sont en train de se préparer, n'est-ce pas, dans les EHPAD et tout ça. Eh ben, je peux vous dire que ça va pas être simple. Hein. L'éclatement des groupes, ça va poser de gros problèmes. Hein. L'éclatement des équipes soignantes. Donc, moi, je suis assez lucide là-dessus.
Je,
hein.
enfin, je suis pas enthousiaste. C'est
ah non, je suis pas du tout enthousiaste. Non.
Je ne suis pas non plus. Hein, mais sur le versant du manque d'enthousiasme, on n'est pas tout à fait sur le même versant, me semble-t-il. Mais
clairement, oui.
Fondamentalement, je trouve que ce qui se passe aujourd'hui dans certaines fins de vie, dans les EHPAD, puisque vous nommez les EHPAD, n'est pas reluisant non plus. On est d'accord. Aujourd'hui, si on analyse la crise qu'il y a dans le système de santé et dans les EHPAD, et particulièrement dans les EHPAD, c'est la question du sens de ce que soigner peut vouloir dire qui est posée. C'est la raison pour laquelle je me permets d'insister et de dire que si on a une loi sèche et qui n'est pas accompagnée d'une politique effective, et là je suis d'accord sur l'idée qu'il faut être très vigilant si ce n'est méfiant, si l'on a une loi sèche, c'est une catastrophe. Et nous l'avons bien précisé dans cet avis. Mais une loi qui ne s'accompagne pas d'une vraie politique est une loi dangereuse, mais une politique seule pourrait ne pas répondre à certaines situations.
Donc, je propose qu'on passe la parole à la salle. Qui y a-t-il des questions?
Bonsoir. Et je me demande si tout ça n'est pas un peu un écran de fumée. Parce que ce que ça va entraîner, ça va permettre que la sécurité sociale est moins à payer, que les retraites seront moins à payer aussi puisque les gens auront disparu, et qu'il y a aussi toujours des questions qui se posent, c'est que les héritages arrivent trop tard maintenant. Donc ces questions-là, à mon avis, sont très importantes et que c'est un peu une loi qui me donne l'impression de cacher des choses.
Répondre.
Moi, je partage pas votre crainte. Je partage des craintes, hein, et que y ait des autres intentions derrière ce qui est affiché, c'est probable. Mais tout de même, je ne ferai pas un procès à notre société dans son ensemble. Oui, oui. Mais je pense qu'on peut. Mais peut-être vous avez raison. Et peut-être je suis. Mais je viens de Franche-Comté, donc j'ai une forme d'utopie probablement. Hein. Je crois encore que l'on peut faire confiance à la confiance et que l'on peut espérer dans une amélioration des rapports dans notre société. Je le dis en étant conscient de la crise. Alors on parlait de la crise des soins palliatifs, du système de santé, mais la crise de notre société, votre propos l'incarne en quelque sorte aujourd'hui. On se demande s'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière un projet de loi. Je me méfie quand même un peu de cette tendance à toujours penser qu'il y a autre chose derrière ce qui est annoncé. Vous n'avez peut-être pas tort, hein, la méfiance, il n'est pas question pour moi de vous dire que vous avez raison ou tort d'être méfiante, entre guillemets, mais je me méfie quand même un tout petit peu de cette évolution de notre société qui ne croit plus à ce qui est dit.
Oui, enfin, moi aussi, je n'irai pas dans cette... Il y a des intentions cachées chez tout le monde. Bon, il y a quand même quand même toutes les complémentaires sont pour, n'est-ce pas? Ça pose quand même des questions. Alors les Canadiens, eux, ils avaient une grande honnêteté, n'est-ce pas? Parce que avant la loi C7, n'est-ce pas? Ils ont fait faire des simulations numériques. Alors très très, vous rentrez ça, n'est-ce pas? Vous entrez l'âge des gens, vous dites bah si on économise tant de retraite, et en fait ils ont chiffré le gain. Ils ont osé faire ça, quoi. Ils ont présenté. Les Canadiens ont présenté ça. En présentant leur projet de loi, ils ont dit, on va économiser tant de milliards, enfin j'ai ça dans mes petits papiers, ça vous intéresse, on va économiser tant de milliards. Alors eux, c'est vraiment carte sur table, hein. C'est-à-dire, oui, alors c'est pas la même politique que chez nous, on est héritier d'une politique de solidarité, j'espère que nous allons la conserver, faut pas avoir des thèses complotistes partout, voilà, mais il y a quand même, la question des finances n'est pas à négliger non plus, alors voilà, oui, j'y abonderai pas dans tout le monde est suspecté, etc. Nous n'avons pas fait de calcul, mais peut-être que la santé publique en fera. Je sais pas. Mais au moins les Canadiens, ils ont. C'est un autre projet libéral, hein, si vous voulez. Mais ils ont présenté ça très clairement à tout le monde. Il faut le faire. Hein.
Autre question?
Moi, j'ai une question et une remarque. La question, je voudrais savoir en quoi la loi actuelle, notamment Claes-Leonetti, est insuffisante pour répondre à ces questions, oui, de grande vulnérabilité que vous avez soulignées, revers de la médaille, en quelque sorte, des progrès. Et ma remarque, c'est qu'on a beaucoup, enfin, on a parlé de dérives un certain nombre de fois à cette tribune. La semaine dernière, j'ai fait un gros effort. Je suis allée à une table ronde organisée par la MGEN sur le projet de loi. Alors, j'étais entourée essentiellement de...
Mutuelle et MGEN.
C'est-à-dire la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. En d'autres termes, j'étais entourée essentiellement de membres de la DMD. Et là, il me semble que la conclusion, oui, c'est que les dérives, elles pointent déjà leur nez, puisque alors que ce n'est pas encore une loi, mais simplement un projet, la DMD explique que, de toute façon, il faut aller plus loin, que le collectif médical, pour prendre la décision auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure, il faut le réduire. Une personne, ça peut suffire. Réduire le délai de réflexion. Et enfin, aussi, la notion de moyen court et moyen terme. Ça, il faut absolument supprimer ça. Voilà, tout ce que je peux vous dire.
Sur la première partie, sur votre question, je partage hélas... le constat. Mais je pense que vous avez compris qu'on n'est pas dans un registre partisan ou opposant autour de cette table, parce que je ne m'inscris pas dans les thèses de la DMD ni à l'inverse de la DMD. J'essaie à titre personnel d'investir la dimension complexe de ces questions. Je ne dis pas que j'y arrive, j'essaie simplement de considérer que le questionnement, c'est une vertu. En quoi le droit actuel n'est pas suffisant, hein, c'était la première partie de votre question. C'est peut-être ça qui est important, à mon avis, à comprendre aujourd'hui, effectivement, et d'ailleurs je crois qu'on le dit dans l'avis 139 du CCNE, le droit actuel, et si les soins palliatifs sont bien effectifs, on répond à toutes les questions, ou quasiment toutes les questions, relatives à la toute fin de vie, lorsque l'espérance de vie est à court terme. Alors il y a eu des définitions par les sociétés savantes du court terme, de quelques heures à quelques jours. Mais je vous propose de rester aussi dans ce champ, où, parce que vouloir mettre des normes, c'est important et c'est dangereux. Et je dis bien, c'est important et c'est dangereux. Mais par exemple, ce que j'évoquais tout à l'heure, la confrontation prolongée à la question de sa propre finitude et la question prolongée d'être prolongée dans une fin de vie qui est longue, c'est une des questions pour lesquelles nous avons essayé de réfléchir. La sédation profonde et continue, qui est un droit depuis 2016, depuis la loi Claeys-Leonetti, ne peut pas s'appliquer au-delà de quelques jours. Alors, à la fois sur un plan pharmacologique, très clairement, vous ne pouvez pas maintenir une personne en sous sédation au-delà de quelques jours. Il y a ce qu'on appelle une tachyphylaxie, enfin peu importe le médicament, l'efficacité du médicament qui endort diminue, et donc les gens pourraient se réveiller. Et deuxièmement, sur un plan purement éthique, qu'est-ce que signifierait maintenir pendant quelques jours, à quelques semaines, voire quelques mois, quelqu'un dans le coma? Je vous rappelle quand même que la sédation, c'est l'abolition de la possibilité de communiquer. Et donc c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas anodin du tout. Peut se penser dans une situation de court terme, à mon sens, mais n'est pas envisageable et n'est pas faisable. Alors le moyen terme, qu'est-ce que c'est que le moyen terme? C'est vrai qu'il faudra bien dire ce que ce n'est pas, si on n'arrive pas à dire ce que c'est. De mon point de vue, je me réfère encore à la législation de l'Oregon, la question l'évaluation de l'espérance de vie à 6 mois semble assez intéressante. Vous savez qu'il y a des études qui montrent que, l'approximation, l'évaluation faite par les médecins semble plus fiable que l'analyse des scores de pronostic qui sont pourtant faits et qui existent en cancérologie, etc. Donc faisons confiance aussi à cette capacité incertaine de penser le pronostic. Enfin voilà pour ce qui était de la réponse à votre question. Et sur la deuxième partie, il y a effectivement le militantisme autour de questions comme celle-ci me semble nuire à la santé, quel que soit le militantisme.
Autre question, madame?
Vous parlez beaucoup de l'Oregon. Je voulais savoir, donc ce serait étonnant que rien n'ait bougé, ni évolué au cours du temps en Oregon, alors qu'aux Pays-Bas et en Belgique, ça ait changé. Bon, et je voulais savoir le délai moyen entre la prise, d'avoir récupéré le médicament et la prise effective. Et est-ce qu'il y a une influence des pathologies? Sinon, je voulais signaler le film que peut-être certains ont vu. Moi, je l'ai vu tout récemment, c'est Soleil Vert. Donc, c'est un tiré d'un bouquin qui est de 66, c'est ce qui se passait en 2022. Bon, alors c'est dépassé. Et je vous conseille d'aller le voir parce que, en particulier, c'est vraiment cette question-là et même au-delà. Et il se trouve que l'auteur, un des acteurs, était effectivement malade, allait mourir. Donc, ce qui fait qu'on y croit encore plus. Encore plus. Et juste si vous pouvez dire deux mots, alors peut-être après, sur ce que vous avez pensé de ce qui est arrivé au docteur Bonne-Maison, sachant que le cas principal pour lequel il a été condamné, en fait, il y avait un conflit entre la sœur et le frère. Il y avait un conflit familial et la fille était tout à fait reconnaissante envers le docteur Bonne-Maison et c'est au contraire le fils qui a attaqué.
Bon. Alors, pour la première partie de votre propos, effectivement, hein, je cite beaucoup l'Oregon parce que je trouve que les données cumulées au fil des années montrent une forme de constance, ce que je vous confirme, entre guillemets. Il n'y a pas eu d'augmentation du nombre d'assistances au suicide depuis 1997. Et donc, c'est quand même intéressant pour dire que lorsque l'on craint les dérives, il faut les craindre, et je partage cette idée qu'il faut les craindre, il ne faut pas non plus considérer qu'elles sont inévitables. Je parle de l'assistance au suicide. Hein. Voilà. Et puis, sur le docteur Bonne-Maison, excusez-moi, je chante peut-être une...
Le délai entre la récupération de la drogue et le...
Alors, à ma connaissance... dans cet état auquel je fais beaucoup référence, le délai entre la demande et la prise, quand prise il y a, puisque vous avez entendu que je, finalement, dans un tiers à la moitié des cas, il n'y avait pas finalement de prise, le délai est de une semaine à 15 jours. Et pour l'affaire Bonne-Maison, je vais être assez rapide, mais il se trouve que j'avais été... auditionné à plusieurs reprises. Vous voyez, typiquement, pour moi, il s'agissait là plus du procès d'un système de santé que du procès d'un homme qu'il lui fallut faire. Cet homme avait administré des produits alors qu'ils n'étaient pas adaptés du tout pour faire mourir des personnes. Cet homme, on pouvait lui reprocher d'avoir décidé seul. En son âme et conscience peut-être, mais seul. Mais comment se fait-il que cet homme ait pu être seul dans un système de santé où il était confronté à une pression très forte de personnes en toute fin de vie, avec une impossibilité de leur trouver de la place? Excusez-moi de parler comme cela, mais j'avais à l'époque non pas défendu l'acte, mais essayé de trouver que l'environnement de ce médecin ne lui permettait probablement pas d'être serein pour appréhender ces questions. Je ne sais pas si mon propos est clair, mais c'est pour ça que je lis beaucoup la question de l'aide dite active à mourir à l'environnement dans lequel se pose cette question. Ça m'apparaît fondamental.
Monsieur,
j'aimerais d'abord, Monsieur Aubry, vous demander ce que vous pensez de la position de la SFAP, qui a quand même beaucoup insisté pour que ce ne soit pas dans la même loi que l'on parle des soins palliatifs et puis de l'aide à mourir. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est que ça fait plus de 15 ans que je suis bénévole en soins palliatifs à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris, et l'expérience qu'on fait quand même, c'est le nombre de personnes qui sont entrées en demandant qu'on les aide à mourir et qui, quelquefois, 3 jours, 4 jours après, à partir du moment où on leur a manifesté de l'affection, de la présence, que les médecins soulignent la douleur, nous disent qu'ils ont vécu quelquefois le plus beau jour de leur vie. Et je voudrais dire à ce propos-là que je trouve personnellement un petit peu blessant que ce projet de loi soit présenté comme une loi de fraternité, parce que la vraie fraternité, je ne crois vraiment pas qu'elle soit là, et qu'elle est beaucoup plus dans les soins palliatifs qui sont... Et c'est ce que vous l'avez dit, enfin, c'est dramatique que ça ne se développe pas et que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est exact, il y en a un qui a été fermé il y a très peu de temps. Je veux dire que les services de soins palliatifs se terminent.
Merci.
Alors, sur la deuxième partie de votre propos, je suis complètement d'accord avec vous. Hein, ce que j'essaie d'apporter au monde des soins palliatifs, c'est les données de la recherche. Je vais répondre à la première partie de votre propos. J'ai essayé de ne pas me mettre dans une posture partisane autour de cette approche-là. J'essaie. Je n'ai pas été en accord avec la SFAP, pas sur le fond, mais sur la forme. Pas sur le fond. Je fais partie de ceux qui pensent que, comme vous venez de le dire, et par expérience, c'est plus que la grande majorité, c'est la quasi-totalité des demandes n'aboutissent pas. C'est montré par la recherche. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut développer le soin palliatif au sens plus large que j'ai essayé de nommer tout à l'heure en le sortant même du champ sanitaire à proprement parler. Vous êtes bénévole, donc vous incarnez la dimension sociale de ce que l'accompagnement peut vouloir dire aussi. En revanche, je distingue bien l'action du législateur et celle du professionnel de santé. J'essaie de distinguer ça. Je ne suis pas favorable, je pense que vous l'avez compris, à la question de l'euthanasie. Je suis plus pondéré, et je vous ai peut-être semblé très partisan dans mon propos, mais je suis plus pondéré par rapport à la question de l'assistance au suicide. Je m'explique. Je pense que l'accompagnement d'une personne jusqu'à son éventuel suicide est un devoir de soignant. C'est très complexe. J'ai entendu et j'ai vu dans le passé des gens qui disaient c'est pas la peine de faire des demandes puisque la loi ne le permet pas. Comme si, en fait, le désir ou la volonté ou la demande n'avait pas de sens. Elle a forcément un sens. Ce sens, ça impose un accompagnement qui est long, lent. Je peux vous dire, dans l'expérience qui est la mienne et l'expérience actuelle qui est la mienne, que l'accompagnement des personnes qui sont en situation de demande, les demandes sont toujours légitimes. Des personnes, en particulier des personnes qui ont des maladies neuroévolutives lentes, ralenties par les possibilités qu'offre la médecine, qui repousse et permet parfois la vie, mais parfois avec une succession de pertes. Cet accompagnement-là, qui dure parfois des années, en général n'aboutit pas à la mise en œuvre de ce qui était une demande et ce qui semblait être la volonté, mais une volonté c'est quelque chose qui évolue aussi. Ça a été montré cela. La volonté de quelqu'un, quand bien même on pourrait le mesurer, ce qui reste, à mon avis, je parle vraiment de travail collectif pour appréhender cette dimension de la volonté. C'est d'abord difficile à évaluer, puis surtout, ça évolue. Dans un autre travail que nous avions mené, nous montrions que c'est ce qui vaut aussi pour la valeur des sondages d'opinion. On a les idées claires quand on n'est pas concerné sur ce qu'on ne veut pas, sur ce que on est dans des projections, me semble-t-il. Et là, il vous échappe pas que les sondages d'opinion concernent des personnes qui ne sont pas en situation de fin de vie. Quand vous travaillez sur les personnes en tant que chercheur sur des personnes en situation de fin de vie, vous voyez que l'évolution de leur demande, elle fait qu'il y a une variabilité qui augmente à mesure qu'elles avancent dans leur maladie. Donc il faut beaucoup de modestie pour appréhender ces questions-là, mais il faut donner beaucoup de soi, du temps, de mettre la question de l'incertitude comme assez centrale autour de tout cela. On ne sait pas où on va quand on accompagne une détresse humaine, mais on sait qu'on va. Donc pour moi, ça serait dramatique de s'opposer à ce que en quelque sorte, la demande trouve comme réponse c'est interdit, donc on ne peut pas vous accompagner. Forcément, il y a une différence à faire entre ces deux formes. C'est pour ça que je parlais d'euphémisation dans le terme qui est utilisé dans ce projet de loi, avec lequel je ne suis pas d'accord, vous l'aurez compris. Hein. Ça m'a été reproché d'ailleurs récemment, là, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à penser autour de tout cela. J'espère que le fait d'administrer un produit létal, et je sais que le fait d'administrer un produit létal, je le sais, là aussi, pour avoir travaillé avec des chercheurs aux Pays-Bas, etc., même si, et peut-être qu'il faudrait qu'on en discute, culture, histoire différentes font loi différente, me semble-t-il aussi. Enfin, mais je sais combien cela pose question, et heureusement que ça pose question à des professionnels de santé. Dire, comme je l'ai entendu, que c'est un soin ultime ou un... je ne partage pas cette idée, je pense que ça pose question, ça bouleverse, au sens littéral du terme bouleverser, un soignant que d'administrer un produit létal. Aujourd'hui même, dans des travaux que nous avons faits, notre équipe, avec l'équipe de la cellule de recherche de Jeanne Garnier, nous avions montré combien la pratique de la sédation bouleversait les soignants, parce qu'ils se demandaient eux-mêmes s'ils n'étaient pas des acteurs d'une accélération qui ne dirait pas son nom, en quelque sorte. La raison, la subjectivité est plus forte que la raison, parfois. L'émotion est plus forte que la raison chez les professionnels de santé. Donc, le minimum, si le droit doit évoluer, c'est qu'il évolue de façon limitée, je vous parle de mon point de vue, mais la condition, c'est que tout cela pose question et que ces questions puissent être débattues continue à être débattue. Le débat public a eu lieu. Moi, on y reviendra peut-être sur cette question de la convention citoyenne. Il a eu lieu. Je trouve que c'était un exercice réussi, de mon point de vue, de démocratie. Mais il ne clôt pas la question. Enfin, en tout cas, et je suis sûr que d'autres questions vont se poser auxquelles.
Bonsoir, merci beaucoup pour vos éclairages
c'est
à chacun.
C'est la dernière question.
J'ai un étonnement et une question qui recoupe la différence entre le modèle de l'Oregon et l'actuelle formulation du projet de loi, c'est-à-dire en gros l'apparente nécessité d'introduire l'euthanasie là où la dominante serait le suicide assisté. La question, elle porte sur quelque chose de très concret que Régis, tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des endroits où il y a des moyens techniques qui ont été inventés pour que des personnes, même totalement paralysées, puissent, par un clignement d'yeux, décider de s'administrer ou non un produit létal. Et j'étais très étonnée que, ni dans l'avis du CCNE, ni dans les discussions autour de l'actuel projet de loi, en France, personne n'évoque ça. Donc, au moins, c'est un élément de débat. Et qu'on n'en parle pas, je trouve ça, bon, au minimum étonnant.
Alors, je pense ne pas être le seul, Agatha, mais j'ai évoqué cette question à plusieurs reprises. Je n'étais pas d'accord. C'est un peu toute la complexité d'un collectif au niveau du CCN autour de tout cela. D'ailleurs, je pense que si on va au bout de la réflexion, y compris si on n'est pas d'accord de la perspective du projet de loi actuel, les textes réglementaires, le comment, à mon avis, vont être très importants à accompagner pour qu'effectivement, on s'inspire, alors pour le coup c'est un peu étonnant ça, mais qu'on s'inspire de ce que j'ai vu moi-même, comme toi d'ailleurs, dans d'autres pays, on est capable d'engendrer une motricité à partir d'un clignement d'œil, voire même sans clignement d'œil, à partir de la volonté de la personne. Tous les travaux de neurosciences autour de tout cela. Ben, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut le faire. Il faut le faire si la loi évolue, entre guillemets.
Une toute dernière question.
Oui, je voudrais vous interroger sur la souffrance psychique.
Mettez bien le micro proche de votre bouche.
Je voudrais vous interroger sur le fait de la souffrance psychique qui, en Belgique, est acceptée pour demander une fin de vie. L'Académie de médecine, la nouvelle ministre, a voulu rencontrer le comité d'éthique de l'Académie de médecine et elle nous a dit que, dans notre avis, nous autorisions que la souffrance psychique ouvre à l'euthanasie, si bien qu'on va être obligé de faire un communiqué dans les jours qui viennent disant que l'explication de grammaire n'a pas été bien comprise. Il y avait un « et » dans la vie, et la ministre nous a expliqué très sagement que, voilà, la souffrance psychique suffirait, et qu'il n'y avait pas de raison l'Académie de médecine l'ayant dit. Alors ça, je peux vous faire partie du comité d'éthique de l'Académie de médecine, c'est pas ce qu'on a dit.
Bon, en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai lu de ce que vous avez écrit, en tout cas. Donc, à mon sens... La notion, ça a été évoqué tout à l'heure, la notion de réfractaire m'apparaît être importante comme mot. Alors je sais que c'est ambigu dans ce qui a été écrit, je partage ce que vous avez dit tout à l'heure, insupportable, bien entendu, enfin je ne vois pas. Mais réfractaire, qu'est-ce que serait une souffrance psychique réfractaire? On comprend aisément ce que peut être une douleur réfractaire. Enfin, on le comprend aisément, mais il faut quand même se rappeler que c'est une réalité quand même aujourd'hui. À mesure que la médecine évolue, elle fabrique aussi des nouvelles formes de douleur très complexes à appréhender. Et le prix de la sédation de la douleur est parfois le prix de la sédation de la conscience. Donc, on comprend ça. En revanche, il y a beaucoup de travaux qui s'interrogent sur souffrance existentielle, entre guillemets. Elle existe, cette souffrance, enfin. Mais qu'est-ce que c'est? Alors déjà, on est en train de travailler sur la notion de souffrance existentielle, mais qu'est-ce que serait une souffrance existentielle réfractaire? C'est quelque chose d'extrêmement complexe, à mon avis. On peut se hasarder à dire que ça peut exister, mais pour le définir de façon explicite aujourd'hui, à mon avis, là encore, je pense que... Il faut beaucoup d'humilité pour appréhender ces notions, y compris de réfractaire. Comment on, comment une souffrance peut être qualifiée de réfractaire.
Oui. On pourrait passer la nuit, mais je suis
tout à fait d'accord avec ça. En fait, une souffrance est toujours un phénomène total. C'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler une douleur simplement physique, une souffrance psychique, une souffrance relationnelle, une souffrance du sens existentiel ou spirituel. En fait, c'est un phénomène complexe, c'est un phénomène total. Et je vois mal comment même en utilisant le concept de souffrance réfractaire, on puisse isoler un critère suffisant pour dire là votre souffrance psychique elle n'est pas qualifiée de réfractaire. C'est extrêmement compliqué. Donc je suis très prudent et en fait je lis hein, souffrance réfractaire et ou insupportable. Donc je pense qu'il y a un tissu même dans en fait le fait que la souffrance soit devenue l'opérateur majeur en fait l'opérateur majeur c'est quand même la souffrance des personnes. Mais replacer la souffrance dans un contexte global, donc tout l'accompagnement et les soins palliatifs montre ça journellement, que finalement il y a des tas de souffrances qui conditionnent les personnes, y compris souffrance psychique, relationnelle, souffrance de sens, existentielle, spirituelle, et que tout ça, ça forme un tout. Donc je suis très très prudent, moi, mais qu'on qualifie de souffrance réfractaire ou insupportable. En réfractaire, il faut qu'on ait fait quelque chose, c'est ça que ça veut dire. Et puis pour fréquenter un peu les milieux de la psychiatrie, via la Fondation Saint-Jean de Dieu, je vois que c'est extrêmement compliqué. Parce qu'ils sont tous, les malades psychiques, ils sont tous en souffrance insupportable. Tous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, vous avez assisté sur... Oui, d'accord. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça si l'opérateur de la souffrance est l'opérateur majeur, quoi? Et peut-être pour répondre à la question d'Agatha, en fait, pour mourir, je pense qu'on attend quelqu'un. On n'attend pas une machine. Je vois mal quelqu'un qui dirait « j'ai les moyens, je vais cligner de l'œil, si je peux pas... Enfin, » je sais pas, peut-être existentiellement, ça doit être compliqué de pas... Oui, enfin, je sais pas. Hein. Mais tu as raison, c'est une bonne question, mais je sais pas si... Ah oui, voilà. Mais ça ferait surgir le fait, alors c'est ça que je veux dire, si c'est le critère, c'est la volonté personnelle et que les personnes ne veulent pas, c'est-à-dire qu'elles attendent quelqu'un. Donc c'est encore de l'humain jusqu'au bout, y compris dans la décision de l'irréversible. Alors c'est ça qui me paraît particulièrement important. Et puis le dernier point, c'est qu'en fait vous avez beaucoup parlé de l'Oregon, mais je rappelle que nous ne sommes pas là. C'est-à-dire le projet n'est pas celui-là. Et que, en quelque sorte, moi j'aurais pu signer le projet de l'Oregon. Enfin bon, bref, j'aurais pas fait comme ça, mais j'aurais dit, voilà. Mais là on est dans un projet beaucoup plus ambigu et qui comporte les deux volets, je le rappelle, l'assistance au suicide et l'euthanasie, tel que le CCNE qualifie l'euthanasie aujourd'hui. Puisque si la personne n'est pas physiquement en mesure de prendre le produit létal, c'est quelqu'un d'autre qui va faire l'acte. Quelqu'un d'autre qui fait l'acte, à sa demande, ça s'appelle une euthanasie. Alors voilà, donc je reviens sur le sens des mots et de pouvoir les qualifier juridiquement. Mais si on veut le faire, qu'on le dise, voilà. Alors peut-être qu'on a peur, peut-être que la population va être terrorisée. Mais enfin, employons les bons mots pour qualifier les bonnes choses. Et ça rendra service aux médecins, ça rendra service à tout le monde de prendre les bons mots pour qualifier ce que l'on fait. Et j'ai très peur que l'on n'arrive pas à qualifier ce que l'on fait.
Merci. Merci beaucoup à nos deux orateurs pour leur intervention magnifique qui nous ont permis ou nous ont conduits à dépasser leurs limites exceptionnellement. Donc ça traduit aussi l'intérêt que vous avez posé à cette question. La prochaine fois, nous aurons un thème totalement différent qui est sur l'Europe, puisque nous approchons des élections, et on essaie d'aborder le thème de façon un peu différente de ce qui est vu dans la presse quotidienne. C'est l'Europe doit-elle être une puissance ? Voilà. Merci beaucoup et très bonne soirée.